Une petite question avant de continuer. Pourriez-vous préciser, par rapport au motif de l'incarnation, quelles sont les limites du mérite ? Que peut-on mériter ? Que peut-on ne pas mériter ? Pourriez-vous aussi, à ce sujet, préciser sur quoi porte la prédestination ? Vous voyez, c'est un triple sujet. Bon, alors, le point de vue de la rédemption. Le mystère de la rédemption, c'est le mystère du salut. Il ne faut jamais l'oublier. Le mystère du salut, c'est le mystère donc de notre filiation divine. Être des fils bien-aimés du Père. Et c'est sur cela que porte la prédestination. La prédestination porte sur notre filiation. Vous savez bien, c'est la grande question des théologiens, se poser si pour Marie, la prédestination, c'est d'être enfant de Dieu, fille bien-aimée du Père, ou être mère bien-aimée de Dieu. C'est une très belle question, du reste. C'est une très, très belle question. Mais c'est une question importante. Il y a toutes deux traditions. Il y a Nazarius, un dominicain que vous ne connaissez pas, Nazarius, qui est un des grands commentateurs de saint Thomas, qui a posé la question, Suarez a posé la question, c'est est-ce que Marie est prédestinée à être fille bien-aimée de Dieu ou être mère bien-aimée de Dieu ? Étant donné que pour nous tous, c'est très simple, on est tous prédestinés à être enfants bien-aimés de Dieu. Chacun d'entre nous. La prédestination porte là-dessus. C'est très important parce que ça fait comprendre le motif propre de la rédemption. La rédemption, c'est de, puisqu'on est prédestiné à travers le cœur blessé de l'agneau. Ça, il y a toute une tradition et un enseignement de l'Église. On est prédestiné à travers le cœur blessé de l'agneau. Le regard de Dieu sur nous passe toujours à travers le cœur blessé d'agneau. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. C'est vrai du Christ et c'est vrai de nous, de chacun d'entre nous. L'ultime moment, c'est ça. Donc on est prédestiné à être enfant de Dieu. Tout le mystère de la rédemption porte donc sur le point de vue de la communication de la grâce. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on dit que c'est une recréation. Et ce n'est pas une création. Ne confondons pas les deux, ne confondons pas le point de vue de la création, le point de vue de la rédemption. Je sais que c'est une tentation d'aujourd'hui. Je me souviens d'un petit, c'est rare que j'assiste à des colloques de théologiens, mais j'ai assisté à Rome, un colloque de théologiens dans le temps, ils avaient invité deux philosophes, le père Leuthen et moi-même, c'était à Fribourg qui organisait ça avec Louvain, et c'était intéressant parce qu'on voyait que la tendance de tous ces théologiens, c'est de dire, nous devons mettre entre parenthèses le problème de la création. Le problème de la création n'est pas un problème théologique, c'est un problème métaphysique. Un problème de sagesse philosophique. Donc mettons-le entre parenthèses et regardons tout dans la lumière de la rédemption. Alors là, on est dans une véritable lumière théologique. Mais ils oublient que la rédemption, c'est une recréation. Et que si on ne voit pas ce qu'est la création, on ne peut pas comprendre ce qu'est la recréation. Mais les deux se tiennent. Je ne peux pas parler de la rédemption sans voir ce que c'est que la création. Autrement, vous tombez dans la confusion entre le point de vue de la grâce et le point de vue de la nature. La grâce n'est pas la nature. Il ne faut pas confondre les deux. Et la grâce reprend toute la nature pour la mettre dans une orientation d'enfant de Dieu. Donc, comprenons bien que le mystère de la rédemption, c'est une recréation qui porte sur la grâce, et non pas sur le point de vue de la création. Oui, je crois que c'est très important de bien saisir ça. Et c'est pour ça que saint Thomas dit toujours que dans l'ordre de la création, il n'y a pas d'instrument possible. Il n'y a pas de médiation. Tandis qu'il y a une médiation du côté de la rédemption et de la recréation. Et laisser participer, communiquer directement, immédiatement, ça c'est le propre de la création. Il n'y a pas d'intermédiaire du côté de la création. Et il y a des intermédiaires du côté de la recréation, du côté de la rédemption, du côté de la communication de la grâce. Et on comprend très bien pourquoi. Parce que quand il s'agit de la communication de la grâce, justement la nature existe antérieurement à la grâce. Donc il peut y avoir un intermédiaire, il peut y avoir une médiation, tandis qu'il n'y a pas de médiation du côté de la création. Je crois que ça répond, s'il y avait d'autres questions là-dessus. On va tout de suite continuer à bien entrer dans ce mystère de l'union envisagée par rapport à ce qui est objet d'assomption. Donc le Fils de Dieu a assumé la nature humaine et c'est parti. Dès lors, une triple étude s'offre à nous, touchant premièrement la nature humaine. Alors au sujet de la nature humaine est-elle plus apte à être assumée par le Fils de Dieu que toute autre nature ? Vous voyez, c'est très intéressant comme problème ça, parce qu'au fond c'est la vision théologique sur ce qu'est la nature humaine. Nous savons à peu près ce qu'est la nature humaine au point de vue philosophique. Hein, à peu près, parce qu'on y revient tout le temps. Parce que c'est bien difficile de comprendre ce que c'est que l'homme. Une anthropologie, on y revient tout le temps. Donc on doit revenir tout le temps sur ce que c'est que la nature humaine. Quand il s'agit du théologien, vous voyez, c'est une des questions très, très intéressantes ici. Parce que c'est de comprendre comment la nature humaine est plus proche du mystère de l'union hypostatique que toute autre nature. C'est une vision très spéciale, très intéressante au point de vue, vous voyez, autrement dit, chaque fois que Dieu se révèle à nous, il nous révèle ce que nous sommes. Hein. C'est le grand principe, vous savez bien, de toute la révélation. C'est le leitmotiv de toute la révélation. Chaque fois que Dieu se révèle à nous, il nous révèle ce que nous sommes. Or, la grande révélation de Dieu s'est faite par le mystère d'incarnation. Dieu s'est révélé à nous d'une manière unique par le mystère de l'incarnation. Et par le fait même, le mystère de l'incarnation doit éclairer l'homme, ce qu'est la nature humaine, d'une manière unique. Il doit y avoir sur la nature humaine une vision nouvelle de sagesse grâce à l'incarnation. Vous voyez, ce qu'on ne regarde pas beaucoup, ça c'est intéressant, parce que c'est important de comprendre dans cette révélation ultime du mystère de l'incarnation, comprendre ce qu'est l'homme. Et alors nous entrons là vraiment dans un regard de Dieu sur l'homme. C'est le regard du théologien. Vous voyez, c'est pour vous montrer l'intérêt de cette question, hein, c'est de cette question 4 qui peut paraître à première vue, pour quel intérêt. Ah oui, c'est très important, parce que ça nous donne un regard du théologien sur ce qu'est la nature humaine dans la lumière de l'incarnation. Or, le mystère de l'incarnation nous donne une ultime lumière, l'incarnation et la rédemption, une ultime lumière sur le mystère de la nature humaine. Alors, je reprends, la nature humaine était-elle plus apte que toute autre nature à être assumée par le Fils de Dieu ? Nous l'avons vu, je relis simplement le corps de l'article. L'on dit d'une chose, qu'elle est assomptible pour désigner son aptitude à être assumée par une personne divine. Vous voyez que ceci ne se comprend que dans la lumière du mystère d'incarnation. Son aptitude à être assumée par une personne divine. S'il n'y avait pas eu l'incarnation, Aristote ne se poserait pas cette question. C'est typiquement une question du théologien. Dans la lumière du mystère de l'incarnation, je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être assumé par une personne divine ? Cette aptitude, évidemment, ne peut s'entendre d'une puissance passive, naturelle, car celle-ci ne s'étend pas au-delà de l'ordre de la nature. Quand vous essayez de comprendre la capacité de l'intelligence par rapport au mystère de la vision béatifique, voyez, vous pouvez vous poser aussi parallèlement le mystère de la capacité de l'homme à être assumé. Saint Thomas fait le parallèle dans le Contra Gentiles, hein. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire le parallèle. Et c'est très intéressant, c'est éclairant. Certainement, je n'hésite pas à faire le parallèle entre les deux. Vous voyez, comment, dans la vision béatifique, d'une certaine manière, le Verbe de Dieu va unir, va assumer l'opération humaine d'intelligence. Et comment, dans le mystère de l'incarnation, c'est au niveau de l'être. Alors, d'un côté, c'est du côté de l'intelligence, et du côté, c'est du côté de l'être. Mais il y a quelque chose d'analogue entre les deux. Donc, si l'on dit, l'on dit d'une chose qu'elle est assomptible pour désigner son aptitude à être assumée par une personne divine, cette aptitude, évidemment, ne peut s'entendre d'une puissance passive naturelle. Secundum potentiam passivam naturalem. Notez bien l'expression. Car celle-ci ne s'étend pas au-delà de l'ordre de la nature, lequel se trouve dépassé par l'union personnelle de la créature à Dieu. Totalement dépassé, hein, complètement transcendé. Il reste donc que l'on entende cette aptitude au sens d'une convenance à l'union susdite. Or, une telle convenance se peut prendre à propos de la nature humaine à deux points de vue, sous le rapport de la dignité et sous le rapport de la nécessité. Sous le rapport de la dignité, la nature humaine, parce qu'elle est rationnelle et intellectuelle, est capable d'atteindre de quelque manière le Verbe lui-même par son opération, en le connaissant et en l'aimant. Et la dignité de la nature humaine. La dignité de la nature humaine se prend toujours du côté de l'intelligence. En premier lieu, puisque l'ordre des degrés de vie se prend du côté de la connaissance, et immédiatement après du côté de l'amour. Alors, quelle est la dignité la plus grande de la nature humaine? Oui, c'est un regard théologique, hein, faut pas l'oublier, parce que vous ne pourriez pas dire ça au point de vue. Sous le rapport de la dignité, la nature humaine, parce qu'elle est rationnelle et intellectuelle, est capable d'atteindre, de quelque manière, « nata est contigere aliqualitaire hein, ». Le « aliqualitaire », c'est toujours... Hein. Très difficile à bien préciser. Aliqualitaire, ipsum verbum persuam operationem. Cognoscendo, chilichet, et amando ipsum. Donc le connaissant et l'aimant. Elle est capable d'atteindre d'une certaine manière, aliqualitaire. Elle atteint d'une certaine manière le Verbe de Dieu par son opération. Sous le rapport de la nécessité, la nature humaine étant soumise au péché originel, avait besoin d'être restauré. Ces deux raisons de convenance sont propres à la seule nature humaine. À la créature irrationnelle, en effet, fait défaut la raison de dignité. À la nature angélique manque le motif de nécessité. Il s'ensuit par conséquent que seule la nature humaine est assomptible. Vous voyez bien, on situe la nature humaine par rapport aux anges, par rapport aux réalités irrationnelles. Et on saisit ce qu'il y a de propre à la nature humaine, d'être, parce qu'elle possède l'intelligence, elle est donc ordonnée vers le Verbe de Dieu, et parce qu'elle est pécheresse, elle est née dans le péché, il y a une nécessité d'être reprise radicalement. Alors, je prends tout de suite la première objection. On ne va pas voir toutes les objections du reste. Il ne semble pas, donc l'objection première, que la nature humaine fût plus apte qu'une autre à être assumée par le Fils de Dieu. Saint Augustin a écrit, en effet, dans la lettre à Volutianus, « Dans les événements miraculeux, ce qui se produit n'a d'autre cause que la puissance de celui qui opère. Mais la puissance de Dieu opérant l'incarnation, œuvre essentiellement miraculeuse, ne se limite pas à une nature déterminée, puisqu'elle est infinie. La nature humaine n'est donc pas plus apte à être assumée par Dieu qu'une créature quelconque. » Donc ça, c'est, on noie le poisson. Et c'est très juste, hein, vis-à-vis de la toute-puissance de Dieu, vous voyez, perspective occamienne, hein, vis-à-vis de la toute-puissance de Dieu, ben oui, on est tous en puissance obédientielle radicale. Hein. Dieu peut faire de tout, avec tout ce qu'il veut. Ce sera occam. Dieu peut faire qu'un carré soit un cercle. C'est évident, hein, toute-puissance de Dieu, il n'y a pas de limite. Donc il peut faire qu'un carré soit un cercle. C'est occam qui dit ça. Et Nicolas de Cuse reprendra ses raisonnements, prendra qu'en Dieu, Dieu est au-dessus de la contradiction. Donc il peut faire de tout. Alors, vous voyez, c'est très intéressant comme objection. La première objection est très intéressante, parce que c'est une certaine perspective. Quand on ne voit que la toute-puissance de Dieu, sans voir la sagesse. Vous ne pouvez pas parler de la toute-puissance de Dieu sans voir la sagesse de Dieu. Alors, la toute-puissance existe, mais ce n'est pas le seul attribut de Dieu. Or, je ne peux pas regarder le mystère des convenances uniquement par rapport à la toute-puissance. Et ça, c'est le déraillement occamien. Et le déraillement occamien, il est quand même très important, parce qu'il a une répercussion sur tout. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Parce que la réforme a été justement en opposition vis-à-vis d'Occam, et elle est tombée dans le même travers. Hein, les deux contraires. Alors ça, c'est mettre la toute-puissance au-dessus de tout et de ne plus regarder les convenances. Et alors, par le fait même, la théologie disparaît. La théologie scientifique, c'est toujours le problème des convenances dans la lumière de la sagesse de Dieu. C'est pour ça que c'est toujours le point de vue de la sagesse. C'est pas le problème de la toute-puissance. Ce serait très intéressant, du reste, de regarder tous les déraillements qui se font du fait même que vous mettez la toute-puissance. Vous voyez, et c'est intéressant que saint Thomas cite ça tout de suite comme première objection, pour montrer que, de fait, si je me mets dans cette perspective-là, tout le reste n'a plus aucune signification. La réponse. Les créatures sont qualifiées d'après les caractères qu'elles tiennent de leurs causes propres, et non d'après les caractères qu'elles tiennent des causes premières et universelles. C'est ainsi que l'on dit d'une maladie qu'elle est incurable, non pas parce qu'elle ne peut être guérie par Dieu, mais parce qu'elle ne peut l'être par les moyens des principes propres du sujet. L'on dira donc qu'une créature n'est pas apte à être assumée, non pour soustraire quelque chose à la toute-puissance divine, mais pour marquer l'état d'une créature qui ne possède pas cette aptitude. Sed ostendandum conditionem creaturae. Et pour marquer, c'est la condition. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait l'état. Je crois qu'il faut respecter. L'état n'est pas une condition. L'état religieux n'est pas une condition. Pour les vœux, c'est très important. Pas la même chose, parce qu'on ajouterait une condition aux autres conditions. Le status, c'est une manière d'exister. Alors, on va dire, en tant que manière d'exister, vous dire c'est une condition. Oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Le conditionnement est du côté des opérations. Donc, ostendunem conditionem creaturae, que ad hoc aptitudinem non habet, qui n'a pas par elle-même cette aptitude. Donc, voyez que la réponse de saint Thomas, c'est tout simplement montrer que, de fait, les convenances se prennent des causes secondes par rapport à la cause première. Et pas uniquement la cause première, tabula rasa. Malbranche. C'est-à-dire, il n'y a plus de cause seconde. S'il n'y a plus de cause seconde, évidemment, il n'y a plus de théologie. Il n'y a plus de sagesse. La sagesse implique un ordre des causes secondes dans la lumière de la cause première. Alors, seconde objection, nous avons vu que la similitude constitue une raison de convenance pour l'incarnation d'une personne divine. Mais si dans la nature rationnelle se trouve la similitude propre à l'image, dans la nature irrationnelle, il y a la similitude propre au vestige. La créature irrationnelle est donc, comme la nature humaine, apte à être assumée. Est-ce que le vestige implique une convenance? Toute la question est là. L'imago et le vestige. Alors, c'est une grande distinction que saint Thomas reprend tout le temps au point de vue de la création. La similitude d'image vient dans la nature humaine de ce qu'elle est capable de Dieu. simiem imaginis at anditur ad naturam manem secundum quod est capax Dei. Alors vous retrouvez le capax Dei. Notez bien cette expression de saint Thomas qui est du reste très belle. Donc la similitude d'image vient dans la nature humaine de ce qu'elle est capable, capax Dei, capable de l'atteindre par son opération propre de connaissance et d'amour. C'est très important de bien comprendre ce que c'est que la similitude d'image. La similitude d'image fait appel directement aux opérations d'intelligence et de volonté. La similitude de vestige consiste seulement en une certaine ressemblance que la frappe divine laisse dans la créature. Alors ça, c'est la frappe divine, ça c'est l'œillet par lequel on signe les choses. Alors, similitudo vestigi attenditur solum secundum representationem aliquam. Representationem aliquam. Ex impressione divina, ça c'est la marque, in creatura existentem. La représentation. Oui, on est du côté métaphorique, tout de suite. C'est la seule similitude que connaisse la créature irrationnelle, incapable d'atteindre Dieu par son opération. Or, qui n'est pas apte au moins, ne l'est pas davantage au plus. Donc, qui n'est pas apte au moins, ne l'est pas davantage au plus. Ainsi, le corps qui n'est pas adapté pour une âme sensitive l'est encore bien moins pour une âme intellectuelle. Mais l'union à Dieu dans l'être personnel est beaucoup plus haute et plus parfaite que l'union dans l'opération. Par conséquent, la créature irrationnelle qui ne peut être unie à Dieu dans l'opération ne se trouve pas adaptée à l'union dans l'être personnel. Et ça, c'est très beau comme raisonnement, c'est le passage de l'opération à l'essai. N'est-ce pas ? Opération sequitur esse, hein, c'est le vieil adage. Hein. Opération sequitur esse. C'est très important pour nous, hein, parce que c'est le domaine de la vie et c'est le domaine de l'être. Opération, il y a un lien entre les deux. C'est deux domaines différents. Alors, on voit que si il y a une aptitude du côté de l'opération, il y aura une aptitude du côté de l'essai. Si la créature irrationnelle est incapable par son opération d'atteindre Dieu, elle ne peut pas être en contact direct avec Dieu. Donc, impossibilité d'être en contact direct du côté de l'essai. Vous voyez que c'est très intéressant comme argument pour l'unité de l'essai. C'est toujours mon idée. Hein. N'oubliez pas ça, c'est intéressant, c'est un des lieux intéressants, ça. Parce que s'il y a deux essais, l'argument ne porte plus. Ça ne porte que sur l'unité de l'essai. Ça, impossible autrement. Parce que c'est atteindre immédiatement Dieu, être en contact, capable de dire, qu'est-ce que ça veut dire, capable. Attitude à être ouvert vis-à-vis du mystère de Dieu, d'être en attente de Dieu, la béance, en attente de Dieu, c'est l'attente de Dieu, ça. Et bien, l'attente de Dieu permet de dire qu'il y a une possibilité de comprendre l'union au niveau de l'essai. S'il n'y a pas cette attente de Dieu, s'il y a impossibilité d'être ouvert vers Dieu, ce que la créature irrationnelle est, elle ne peut pas donc être unie directement. Pas de convenance. Mais ça, c'est un très beau raisonnement au point de vue théologique. Hein. Et je crois que ça nous fait bien comprendre comment le mystère de l'union hypostatique implique directement l'union avec l'essai divin. Autrement, je ne vois pas le raisonnement. Donc, troisième objection, il y a, comme le remarque saint Grégoire, dans la nature angélique, une similitude de Dieu plus parfaite. Il faut bien revenir sur les deux objections, vous comprenez bien. On voit très bien. l'ange passe avant nous, ou la créature irrationnelle est possible, donc l'argument ne porte pas. Alors tout l'argument montre que la nature humaine a un privilège unique par rapport aux anges, par rapport aux animaux. Par rapport aux animaux, c'est très compréhensible. Par rapport aux anges, alors nos frères aînés, on va leur montrer que là, il y a un petit privilège particulier des petits derniers. Il y a, comme le remarque Saint Grégoire, dans la nature angélique, une similitude de Dieu plus parfaite que dans la nature humaine. De plus, le péché se trouve dans l'ange aussi bien que dans l'homme. Selon cette parole du livre de Job, il découvre le mal dans ses anges. La nature angélique était donc, comme la nature humaine, apte à être assumée. Vous voyez, ça c'est très actuel, puisque pour toute une série de théologiens, n'est-ce pas, la rédemption regarde jusqu'aux démons. Hein, alors, c'est intéressant de voir ça. De voir, est-ce que l'ange pécheur était capable, lui, d'être racheté ? Très gros problème, et très important. Vous vous trouverez devant ces problèmes-là, hein, parce que ça gagne. Alors, ça, vous en trouverez des certains. La miséricorde de Dieu est tellement grande. Hein, donc, il n'y a pas de raison. Oui, vous voyez, alors c'est le raisonnement toujours. La miséricorde de Dieu, oui, mais la sagesse. N'oubliez pas. Parce qu'en fond, on peut prendre la toute-puissance et la miséricorde. Et on oublie la sagesse. Certains prétendent qu'il n'y a pas dans l'ange d'aptitude à être assumé, parce que dès le principe de sa création, il fut constitué dans sa personnalité, et que d'autre part, il n'est susceptible ni de génération ni de corruption. Il n'aurait donc pu être élevé à l'unité de la personne divine qu'à la condition que sa propre personnalité fût détruite, ce qui ne convient pas ni à l'incorruptibilité de sa nature, ni à la bonté de celui qui assume. Cette bonté s'oppose en effet à ce qu'aucune perfection soit détruite dans la créature assumée. C'est une œuvre de miséricorde, donc elle ne détruit pas, elle élève. Être assumé par la personne divine, c'est être élevé à la dignité de la personne divine. Donc cet acte est un acte de miséricorde et d'amour qui ne peut pas détruire. Oui, si Dieu détruit pour assumer, ça ne va plus. Mais ces raisons ne semblent pas exclure entièrement toute convenance d'assumption dans la nature angélique. Dieu peut en effet produire une nouvelle... Ça c'est très intéressant, vous voyez, Saint Thomas donne un aspect de la tradition... Et puis, Saint Thomas va aller plus loin. Il le fait humblement. Mais ces raisons ne semblent pas exclure entièrement toute convenance d'assomption dans la nature angélique. Dieu peut, en effet, produire une nouvelle nature angélique et se l'unir personnellement. Et ainsi, aucune perfection préexistante ne serait détruite en cette nature. Seulement, comme nous l'avons dit, ce qui fait ici défaut, c'est un motif de convenance du point de vue de la nécessité. Motif de l'incarnation. Ça, c'est très intéressant comme motif de l'incarnation. Le motif de l'incarnation échappe. Point de vue de la nécessité. Car, bien que la nature angélique, en certains de ses représentants, soit coupable de péché, cependant ce péché est sans remède. Alors il renvoie à la prima pars lorsqu'il parle du péché de l'ange. Et vous savez pourquoi ? Pourquoi l'ange ne peut pas être racheté alors que l'homme est capable d'être racheté ? Les pauvres types sont toujours capables d'être rachetés, tandis que c'est l'avantage des pauvres types, alors ils peuvent être rachetés, tandis que ceux qui sont trop parfaits, la chute est tellement vertigineuse que c'est impossible. Et c'est ça la raison de saint Thomas, c'est que le péché de l'ange étant intuitif, son péché le prend totalement. Nous, le péché ne nous prend jamais totalement. Donc on peut toujours être racheté à cause de notre conditionnement humain. Parce que nous avons une intelligence qui n'est pas intuitive. Tandis que l'intelligence de l'ange étant intuitive, ne peut pas être achetée. L'ange reste dans la même perspective actuellement qu'au moment où il s'est engagé. L'engagement de l'ange est tellement fort qu'il n'y a pas de place à revenir en arrière. Et ça, on comprend ça un tout petit peu dans la psychologie de l'orgueil. Quand on est très orgueilleux, on a une peine énorme à revenir en disant « oui, je me suis trompé ». Quelqu'un de moins intelligent, bon, « je me trompe tout le temps, que voulez-vous ?» C'est l'habitude, je suis habitué. C'est le bon gosse qui disait, c'est un de mes cousins qui disait ça, ça désarmait complètement sa mère. Et il était tout le temps dernier. Alors, et il dit, moi ça me fait rien. Les autres, ça leur fait quelque chose d'être dernier. Alors, moi, il vaut mieux que ce soit moi. C'est merveilleux comme raisonnement du bon Dieu. Que voulez-vous dire devant ça? On ne peut plus rien dire. Mais là, ça, c'est nous. On est des pauvres petits, on reconnaît, alors Dieu peut nous racheter. Tandis que l'ange, non. Son orgueil saisit toute son intelligence. C'est extraordinaire, ça. Le démon ne veut pas la miséricorde. Il veut la justice. Comme l'intelligence à l'état pur ne veut pas la miséricorde. Elle veut la justice. Une justice sans la miséricorde, qui n'est plus la justice de Dieu, qui est une justice angélique. Hein? Qui est une justice, une fausse justice angélique, hein? Qui est la justice du mauvais ange. Donc vous voyez, la raison de Franc Saint Thomas, c'est intéressant parce que ça nous montre bien, dans la perspective de Saint Thomas, qu'il ne peut pas y avoir rédemption. Donc Saint Thomas rectifie une certaine tradition en montrant il n'y aurait aucune impossibilité métaphysique, aucune impossibilité métaphysique qu'un ange puisse être assumé. Parce qu'il a la dignité qu'il faut, une nature rationnelle, intellectuelle. Donc il peut être assumé. Mais il n'y a pas de motif de nécessité. Donc c'est contraire à la sagesse. Oui. Du côté de la toute-puissance, aucune impossibilité. Du côté de la miséricorde, aucune impossibilité. Mais du côté de la sagesse, ah, il faut la nécessité. Or, Dieu ne peut pas racheter. Le mystère de l'incarnation ne pourrait, si elle était angélique, ne pourrait pas racheter les autres anges. Parce que le péché de l'ange ne peut pas être racheté. Pour être capable d'être racheté, il faut justement qu'il reste une possibilité d'attente de la miséricorde. Alors ça, c'est toute la question de l'orgueil. Hein? Parce qu'au fond, c'est le péché d'orgueil. On sait très bien que l'orgueil, c'est l'intelligence qui se replie sur elle-même pour être première, au-delà de l'amour. Alors, pour nous, c'est jamais total, grâce à Dieu. Parce qu'on n'est pas une intelligence suffisamment pure. On a toujours le point de vue rationnel. Alors, grâce au point de vue rationnel, il y a toujours soupape de sûreté. N'est-ce pas ? Tandis que du côté de l'ange, parce que c'est une intelligence intuitive qui n'a pas du côté rationnel, l'ange s'engage totalement dans son choix. Nous ne pouvons jamais dire que l'engagement est total. C'est pour ça qu'il y a toujours possibilité de rachat. Article 2. Le Fils de Dieu a-t-il assumé une personne? Le Fils de Dieu a-t-il assumé une personne?
Oui.
Ah oui, c'est sûr. Ah, c'est deux choses différentes. Oui, une liberté qui coupe vis-à-vis de la finalité, comme le rappelle le Saint-Père dans l'exhortation au point de vue de la pénitence. Il y a une possibilité toujours, il reprend la doctrine de Saint Thomas. Le péché mortel, c'est lorsqu'on coupe par rapport au principe.
Ça implique un certain absolu.
Mais vous voyez, c'est du côté. Oui, ça implique un absolu du côté de l'objet, mais pas du côté du conditionnement de la personne, pas du côté subjectif. Tandis que du côté de l'ange, le côté subjectif et le côté objectif sont adéquats. Il est totalement engagé, personnellement, et c'est cet engagement total qui fait qu'il n'y a pas possibilité de reprise. Ça, ce serait très intéressant pour essayer de comprendre le côté de la sincérité de l'ange. Le démon est sincère. Des idées dans l'erreur. Une sincérité dans la mesure où on est totalement engagé. Non, quelqu'un est sincère s'il est totalement engagé du côté subjectif. Le démon est sincère, et c'est pour ça qu'il ne se considère pas du tout comme pécheur. C'est affolant. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas, parce qu'on ne peut faire la miséricorde que quand il y a une coopération. Autrement, c'est impossible. Le Fils de Dieu a-t-il assumé une personne ? Il semble que le Fils de Dieu ait assumé une personne. Damascène écrit en effet, le Fils de Dieu a assumé la nature humaine dans un être concret. Ah, vous voyez, la personne, c'est l'individu et la personne. On va retrouver Maritain avec Damascène. C'est-à-dire dans un individu. Mais un individu de nature rationnelle est une personne, comme il appert de la définition de Boès. Le Fils de Dieu a donc assumé une personne. Ce sont les lieux, hein, n'oublions pas que ce sont ces lieux-là qui ont permis à Maritain de faire la distinction de l'individu et de la personne. Alors il a transposé ce qui est vrai au niveau théologique au point de vue philosophique. Cette contrainte. Saint Augustin écrit que Dieu a assumé la nature de l'homme et non la personne. Ah, c'est beau de mettre ça, c'est évident. C'est assez joli comme un dialogue entre Damascène et saint Augustin. Pour les orthodoxes, c'est tout à fait ça. Damascène, l'Orient, saint Augustin, le latin. Être assumé, c'est être pris pour être uni à quelque chose. Aliquid dicitur, assumi, ex eo quod ad aliquid sumitur. Ce qui est assumé doit donc être présupposé à l'assomption. De même que le mobile est présupposé au mouvement local lui-même. Alors ça, c'est une analogie aussi très très curieuse et très amusante. Vous voyez, c'est intéressant pour essayer de comprendre la structure de la théologie, hein. C'est le principe que saint Thomas prend. Le mobile est présupposé, est présupposé au mouvement local lui-même. Ça, c'est une expérience de philosophie de la nature. Mais vue dans la sagesse de Dieu. Or, d'après ce que nous avons déjà dit, dans la nature humaine assumée, la personne n'est pas présupposée à l'assomption. Elle doit être plutôt envisagée comme le terme de l'assomption. Si elle était présupposée, en effet, ou bien elle se trouverait corrompue et par suite serait assumée inutilement, ou bien elle demeurerait après l'union et alors il y aurait deux personnes, l'une assumant et l'autre assumée. Ce qui est erroné, comme on l'a montré plus haut. Il reste donc que d'aucune manière, le Fils de Dieu n'a assumé une personne humaine. Alors ça, c'est très intéressant pour toujours le raisonnement des deux essais. Faites le parallélisme. Il y aurait deux natures, il y a deux essais. Alors comment d'un côté ça peut se soutenir, et comment de l'autre côté ça ne peut pas se soutenir ? Il y aurait deux natures, deux personnes, je veux dire. La personne première, avant l'Assomption, et la seconde personne, divine, après l'Assomption. Donc il y aurait la nature humaine, la personne humaine et la personne divine. Alors, ce raisonnement-là est évacué, et les autres prennent deux essais. Un essai divin et un essai humain. Je disais pour qu'on réfléchisse toujours là-dessus. Hein. Bon, je crois que ça n'offre pas beaucoup de difficultés. Hein. On ne peut pas assumer une personne, puisque le terme de l'assomption, c'est dans la personne. Bon. Et tout ce qui est assumé donc, est antérieur à l'assomption. Donc, où la personne sera unie à l'autre personne, il y aura deux personnes. Où la personne sera détruite. Et les deux sont impossibles. Donc, on ne peut pas assumer une personne. Je crois que ça n'a pas beaucoup de difficultés. Article 3, la personne divine a-t-elle assumé un homme ? Si vous avez des difficultés, vous le dites hein, tout de suite, parce que moi, on doit aller vite. La personne divine a-t-elle assumé un homme ? Voici l'enseignement de Saint Félix, pape et martyr, reproduit par le Concile d'Éphèse. Nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, Fils éternel de Dieu, Verbe et non pas homme, assumé par Dieu et autre que Dieu. Le Fils de Dieu, en effet, n'a pas assumé un homme qui serait autre que lui-même. Cette phrase assez dense et assez intéressante comme manière. Neque enim hominem assumsit filius Dei ut aliter sit praeter ipso. Voici le raisonnement de saint Thomas. Comme il a été dit précédemment, ce qui est assumé n'est pas terme de l'assomption. Toujours penser à l'action d'assumer. Tout ça ne peut se comprendre que quand on regarde l'action d'assumer. Et quand on regarde ce qui est assumé, ce qui est présupposé, est le terme de l'assomption. Comme il a été dit précédemment, ce qui est assumé n'est pas terme de l'assomption, mais se trouve présupposé à l'assomption. D'autre part, nous savons que l'individu en lequel la nature humaine a été assumée n'est autre que la personne divine, terme de l'assomption. Enfin, le mot « homme » signifie la nature humaine en tant qu'elle se trouve destinée à être dans un suppôt. Car ainsi que le dit Damascène, le mot « Dieu » signifie « celui qui possède la nature divine ». De même, le mot « homme » signifie « celui qui possède la nature humaine ». La distinction du concret et de l'abstrait, quoi, c'est tout simplement ça. C'est « homme » et « humanité hein. ». Si vous comprenez ça, là, vous voyez tout de suite. De même, le mot « homme », pris d'une façon concrète, signifie celui qui possède la nature humaine. Dès lors, à proprement parler, le Fils de Dieu n'a pas assumé un homme, si l'on suppose ce qui est vrai, que dans le Christ, il n'y aura qu'un seul suppôt et une seule hypostase. Nous l'avons déjà vu, ça. Mais si l'on admet dans le Christ deux hypostases ou deux suppôts, l'on peut dire vraiment que le Fils de Dieu a assumé un homme. C'est pourquoi la première opinion rapportée par le maître des sentences concède qu'un homme a été assumé. Cette opinion, on le sait, est erronée. Alors ceci, vous voyez, saint Thomas va très vite là-dessus, parce que ça a été vu avant. Y a-t-il deux suppôts dans le Christ ? Non. Papa. Donc on ne peut pas dire que c'est l'homme concret qui aurait existé. Un homme concret, ça existe. Là encore, c'est l'exister. Oui. Et donc, il faut bien comprendre. C'est un homme individué, c'est sûr, mais qui n'existe pas. Il n'existe que dans la personne divine, au sens fort. Vous voyez ? Prenons la première objection, si vous voulez. Vous verrez mieux. Il semble que la personne divine ait assumé un homme. Il est dit en effet au psaume 64, c'est difficile quand on regarde les psaumes de préciser, hein, « Bienheureux l'homme que tu as choisi et que tu as assumé. » Parole que la glose applique au Christ. D'autre part, saint Augustin écrit « Le Fils de Dieu a assumé l'homme et en lui, il a éprouvé tout ce qui est humain. » Réponse. Il ne faut pas prendre de telles expressions au sens propre. Ça, c'est facile à répondre. Huius modi locutiones non sunt extendende tamquam proprie. Mais l'on doit les expliquer avec piété. La piété est utile à tout. Avec piété. Quand on les rencontre chez les saints docteurs. Ça, c'est prenez vos distances pour être respectueux. Mais pillés sunt exponende, ubicumque a sacris doctoribus ponuntur. C'est très intéressant, ça. La manière dont saint Thomas regarde les choses. Hein. Quand il s'agit de saint Augustin, ne mettons jamais en opposition vis-à-vis de saint Augustin. Disons que saint Augustin est un peu un rhéteur. Donc, pillez. Soyez pieux vis-à-vis de saint Augustin. Soyez une piété merveilleuse de saint Augustin. Et reconnaissez que saint Thomas, saint Augustin ne parle pas toujours avec une précision aussi grande que la théologie scientifique. Donc, il suffit de comprendre. L'on parle ici d'homme assumé. Parce que sa nature a été assumée et que l'assomption a eu pour résultat de faire le Fils de Dieu un homme. Oui, c'est tout simplement. D'un côté, vous regardez ce qui est antérieur et de l'autre côté, vous regardez ce qui est postérieur. C'est bien évident que dans le mystère du Christ, l'homme est concret. Jésus est un homme concret. Tout ce qu'il y a de plus concret, tout ce qu'il y a de plus individualisé, c'est bien évident. Mais ceci, c'est le fruit de l'Assomption. Ce n'est pas antérieur à l'Assomption. Alors, quand on est rhéteur, on ne fait pas grande attention à ce qui est avant et ce qui est après. On prend ensemble.